La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent, le déposa aux pieds des apôtres. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Je vais lire quelques titres, quelques nouvelles, sans mentionner des dénominations ou des noms en particulier. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous inspire ces nouvelles ? 2 août, aux Philippines, un responsable d'église arrêté pour soupçon d'abus sur mineurs. 2 juin, au Mali, l'église au cœur d'un scandale d'évasion fiscale. 30 mai, en France, un représentant d'église dénonce l'hypocrisie de certains croyants dans leur manière de voir la politique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et j'ai fait une sélection, on pourrait en lire d'autres. Certainement, dans la peau d'un non-croyant, on pourrait se dire, c'est la démonstration de ce que je pensais. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont peut-être même pires parce qu'ils se donnent l'apparence de gens bien. Ils sont tout aussi tordus, sinon pires. Et pour quelqu'un de croyant, eh ben ça sera peut-être une occasion de découragement, de lire des nouvelles comme ça et de se dire, compte tenu de tout ce qu'on a entendu de la part de Jésus, de son enseignement, de tout ce qu'on a vu de lui, de son exemple, et d'avoir des chrétiens qui s'identifient à lui, dire cela, c'est profondément décourageant. Décourageant parce qu'on pense que l'Évangile est discrédité aux yeux des autres. Le texte qu'on a lu a des choses intéressantes à dire aux deux, à la fois à des non-croyants qui l'entendent et aussi à des croyants. Luc nous donne en toute sincérité, on va le voir, ces deux exemples et pour nous, quelle que soit notre situation en tant que lecteur, il y a quelque chose à retirer. Il y a 2 exemples, un exemple de solidarité authentique et un exemple de solidarité hypocrite. Et ce sera simplement le plan de ce soir, une solidarité authentique, une solidarité hypocrite. On est ici au tout début du développement de l'Église. Le livre des Actes nous parle comment tout a commencé de comment tout a commencé à Jérusalem. Et on voit ici une solidarité qui est magnifique à voir, qui est résumée dans les versets 32 à 35. Et on voit plusieurs étapes dans ces quelques versets. Dans les étapes qui conduisent à une telle solidarité, on trouve d'abord l'unité au verset 32. « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Un cœur, une âme. On trouve là les signes d'une unité. Une proximité telle de cœur que c'est comme une famille. On ne serait pas surpris si, dans le cadre d'une famille, quelqu'un qui passe par un moment difficile voit les autres membres de la famille se mettre à ses côtés, l'encourager, l'aider pratiquement, concrètement, dans sa situation. Mais ici, ce n'est pas une famille de sang. C'est une famille de conviction, de foi. Ils sont unis en tant que croyants. C'est d'ailleurs de cette façon que Luc les présente. La foule de ceux qui avaient cru. Un seul cœur, une seule âme. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Eh bien, la deuxième étape, c'est que personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Et il y a une radicalité dans la démarche. Ils mettaient tout en commun. Ils voient leurs biens comme des choses à mettre en commun pour le bien de ceux qui en ont besoin. On le voit dans d'autres passages, ça ne signifie probablement pas que tous ont vendu leur maison, sinon comment se retrouvent-ils dans le livre des Actes, dans leur maison ? C'est donc des croyants qui avaient plusieurs maisons ou d'autres terrains ont pris de ce superflu, de leur richesse, de leurs biens, pour les partager avec des personnes qui étaient dans le besoin. Ils en vendaient pour que d'autres qui étaient dans le besoin voient une providence là pour eux. Et notez ici qu'il ne s'agit pas des premières traces du communisme, comme certains ont voulu le voir, comme si c'était là que le communisme a commencé avec Marx ou Lénine. La différence, elle est notable. Il ne s'agit pas d'une solidarité qui est forcée, imposée par des règles ou par des lois. Elle vient précisément du cœur, de l'intérieur. Elle est spontanée, elle est authentique. Et ce sera visible dans les questions de Pierre, n'est-ce pas ? Au verset 4 du chapitre 5. « S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ?» Il n'y a rien d'imposé dans ce qui est dit ici. Ça vient du cœur, c'est authentique, c'est dans toute sincérité, une solidarité libre et authentique, pas imposée, pas à contre-cœur. La troisième étape qu'on voit dans cette solidarité authentique, c'est que cette solidarité radicale, elle amène à un constat qui est assez remarquable quand on y pense. Au verset 34, « Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. On faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. » Une solidarité telle que la pauvreté, elle commence à être éradiquée parmi les croyants. C'est magnifique, n'est-ce pas ? On a dit quelques mots sur les étapes, mais qu'est-ce qui permet une telle solidarité ? Qu'est-ce qui est au cœur, pour reprendre l'expression ? Qu'est-ce qui est au cœur de cette solidarité ? Eh bien, c'est assez intéressant. Au verset 32 et 34, on a ces éléments, mais au cœur, c'est-à-dire au verset 33, on a l'explication. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'est-ce que ça change de croire à la résurrection de Jésus ? C'est ça le témoignage qu'apportent les apôtres, la résurrection de Jésus. Il y a pas mal d'implications en fait, beaucoup d'implications. Mais si on devait essayer d'en résumer quelques-unes, quand les gens croient à la résurrection de Jésus, croient qu'il est revenu d'entre les morts, qu'il y a une espérance au-delà de la mort, ils ont confiance que Jésus est le Sauveur qui est intervenu dans l'histoire, que c'est bien lui le Messie qui était annoncé par les Écritures. Quand les gens se tournent vers Jésus, ils rejoignent sa famille, sa communauté, et alors qu'on aurait tendance à se focaliser sur les biens présents dans le temps présent, de savoir qu'on est uni à Jésus, qui est vainqueur de la mort et qui promet la vie éternelle à ceux qui croient en lui, on ne voit plus ces biens-là comme l'essentiel de sa vie, essentielle à conserver ou à amasser, mais cette vie à venir. La tendance naturelle, et on doit le constater dans notre vie, mais aussi autour de nous, c'est de penser à cette vie, de penser à nos biens dans le temps présent, notre retraite, l'aboutissement d'une vie d'économie, de ce qu'on va faire de nos biens, de ce qu'on va pouvoir obtenir, et d'avoir tendance à donner moins de valeur aux personnes. Mais ici, c'est l'inverse que Jésus entraîne par sa résurrection. On a envie de se focaliser sur des personnes parce que l'enjeu est éternel. Ce sont les personnes qui croient en Jésus, qui peuvent vivre cette vie éternelle, et moins à se focaliser sur les biens. Pourquoi est-ce que Luc plutôt met cela par écrit ? On peut d'une part penser que, alors qu'il écrit à Théophile, il nous l'a dit au début de son évangile, il le dit au début de son livre des Actes, il écrit à Théophile, c'est certainement pour l'encourager lui-même à réfléchir aux implications de l'évangile, à donner des exemples d'une vie radicalement différente. Mais au-delà, il a dit dans son introduction de son évangile qu'il voulait que Théophile ait la certitude de l'enseignement qu'il a reçu. Et en quoi est-ce que ce passage y contribue ? En quoi est-ce que ce qui nous est dit ici contribue à dire que ce message est certain, qu'il est véritable, qu'il est authentique ? L'authenticité de cette solidarité, elle contribue à démontrer l'authenticité du message de Jésus. L'élan qu'on voit ici, prenez un exemple, les apôtres, quand ils doivent nourrir toute une foule, la tendance, quand ils viennent vers Jésus, c'est dire « renvoie-les chez eux, renvoie-les chez eux ». Mais après la résurrection de Jésus, alors qu'ils réalisent qu'ils sont témoins de Jésus, ce sera de voir la nécessité de prendre soin de tous ceux qui leur sont confiés. L'authenticité du message de la mort et de la résurrection de Jésus, elle se voit dans l'authenticité de cette manière de vivre radicalement différente. Et on peut peut-être l'illustrer par cette parole de Luc, « Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux ». Si Théophile, on ne sait pas s'il avait lu toute la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, en tout cas il avait déjà reçu des enseignements, c'est ce qui est dit. Mais dans Deutéronome chapitre 15, on trouve un encouragement à donner pour les pauvres dans la nation d'Israël. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. Vous avez vu comment le message doit avoir une implication sur la manière de vivre, et en particulier la manière de prendre soin des pauvres. Et comment ça va se passer pour Israël ? Malgré leur engagement, malgré leur détermination à le vivre, ils ne vont pas pouvoir le vivre. Ils seront régulièrement à côté de la plaque, régulièrement à mépriser les pauvres. Mais ici, suite à la résurrection de Jésus, on trouve un élan qui témoigne de l'authenticité du message reçu, de la puissance du message de la résurrection, qui change la manière de vivre de ses premiers disciples. C'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Et qui a fait ça ? C'est Jésus précisément. C'est lui qui est à l'œuvre, c'est son message, c'est son œuvre. Et on devrait être certain que c'est lui le sauveur. Tourner les regards vers lui à cause de l'authenticité de ce message. Sur le site Porte Ouverte, une organisation internationale, on trouve des témoignages, celui d'une église à Tartous en Syrie. Et les responsables se souviennent avoir prié avant le début du conflit, que Dieu soit puissamment à l'œuvre parmi eux. Avec le conflit, plus de 6 millions de déplacés en interne, la tentation, c'était de rester chacun dans sa communauté, ou alors de fuir le pays. Mais en se demandant ce qu'ils devaient faire, cette communauté, ceux qui sont restés, on conclut qu'il fallait prendre soin de ceux qui étaient réfugiés qui avaient tout perdu. Tout commence avec le simple fait d'aller visiter des personnes qui avaient dû fuir, des réfugiés, Et petit à petit, l'église devient le lieu de refuge pour ces réfugiés. Et naturellement, voici ce qu'une mère de famille déplacée affirme. Nous voulons que le Dieu qui a mis dans votre cœur cette paix et cette volonté de nous aider soit aussi notre Dieu. Un témoignage sur porte ouverte, c'est que l'église est méconnaissable aujourd'hui. 200 personnes et 90% des personnes dans l'église sont des personnes qui se sont converties précisément parce que l'authenticité de cette solidarité a témoigné en faveur de l'authenticité du message, de se tourner vers le même Sauveur et Seigneur. C'est ce qui se produit ici. Il y a une authenticité dans la solidarité qui témoigne de l'authenticité du message. Il est bien le Sauveur. Et on peut se demander dans quelle mesure nous vivons l'authenticité de ce message, l'authenticité de leur solidarité. Alors, il faut redire ici qu'il n'y a pas de règle imposée. Ça ne viendrait pas du cœur. Il n'y aura pas de loi forcée, quelque chose de fait à contre-cœur en nous. Mais ça doit venir précisément de la compréhension de ce message. Ça vaut quand même la peine de se poser des questions sur la compréhension de ce message pour nous. Comment est-ce qu'il s'applique à notre vie? Ils sont devenus, ces premiers croyants, aussi libres qu'ils pouvaient vendre leur maison, vendre un terrain pour que des pauvres dans la communauté en bénéficient. Qu'est-ce qui va témoigner de cette foi en la résurrection? J'étais à une, et Mathieu aussi, à une convention de notre association et un des intervenants a posé cette question justement. Quand les gens qui sont autour de nous se demandent qu'est-ce qu'il fait vivre, qu'est-ce qui lui donne de l'espérance, est-ce qu'il voit quelque chose de différent que de simplement amasser pour une retraite, avoir un bien, un bien immobilier ou autre chose? Est-ce qu'il voit plus que cela au point, et c'est ce qu'on voit dans 1 Pierre par exemple, qu'il demande, mais d'où vient cette espérance? D'où vient cette foi en la résurrection? Sur quoi est-ce qu'elle est basée pour pouvoir vivre différemment comme tu vis différemment? Est-ce que les gens nous poseraient cette question? Ou est-ce qu'ils se diraient, mais lui, elle, ils font comme tout le monde. Ils ont la même espérance que tout le monde. La retraite, les vacances, les biens amassés. Est-ce que cette question leur viendrait à l'esprit? Et ce n'est pas exclusivement en termes d'argent qu'il faut parler ici. C'est aussi en termes d'énergie, de temps, d'engagement. Et peut-être en pensant à l'une ou l'autre application. Si quelqu'un d'entre nous est en dehors de cette communauté, était hospitalisé, vivait un temps d'hospitalisation, est-ce qu'un sacrifice pourrait être celui de consacrer du temps à aller lui rendre visite à plusieurs ou séparément? Ou alors quelqu'un qui fait face à des difficultés, n'arrive pas à gérer peut-être ses biens justement, a besoin d'aide dans la gestion de ses ressources, à apprendre à utiliser un budget. Est-ce que ça pourrait être un temps, une énergie consacrée, un sacrifice qui est fait pour le bien de cette personne? Et il y a bien d'autres manières de sacrifier ce que nous avons, de sorte que ceux qui sont dans le besoin puissent être encouragés. C'est certain, il y a une sagesse à avoir, et je reviens sur la question de l'argent. On voit par exemple qu'on peut mal appliquer ce principe. On voit l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Thessalonique, que certains croyants avaient arrêté de travailler en disant « le Seigneur va revenir » et ils vivaient grâce aux dons, à la générosité des autres croyants dans l'église. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de vivre sur le dos des autres, mais plutôt de saisir face à cette perspective éternelle comment nous pouvons participer à l'œuvre de Dieu. Au-delà de l'Église dans son ensemble, Luc se focalise ensuite sur une personne, un certain Joseph, originaire de Chypre. Et il nous dit ici qu'il vend un champ, qu'il apporte l'argent aux apôtres pour qu'il soit redistribué. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce Joseph, surnommé Barnabas? Ben, il y a probablement plusieurs raisons. D'une part, la première, c'est qu'il inspire par son exemple. Le surnom qu'on lui donne, justement, Barnabas, littéralement fils d'encouragement, montre que ça lui colle tellement bien à la peau qu'il nous encourage par sa vie, qu'on va le surnommer fils d'encouragement. Barnabas, c'est lui, c'est son identité, c'est ce qui le caractérise. Et il va être un exemple pour d'autres. Une autre raison pour laquelle Luc le mentionne, c'est peut-être parce qu'on va le retrouver par la suite dans le livre des Actes, et c'est vrai, c'est le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que cet encouragement, c'est ce qui le caractérise au fil de sa vie. C'est comme le fil rouge de sa vie. Il va encourager de différentes façons. Mais la dernière raison, ou en tout cas une autre raison qui pourrait, que Luc pourrait avoir pour le mentionner, c'est qu'il sert de contraste. On voit le cependant au début du chapitre 5 avec Barnabas qui est mis en contraste avec deux autres personnes, Ananias et Saphira. Et ça nous amène à parler d'une solidarité hypocrite. Une solidarité hypocrite. Pourquoi est-ce que Luc nous parle en toute honnêteté de cela ? Eh bien, c'est parce que précisément, il veut que ce soit enraciné dans des faits, dans la réalité. On aurait pu imaginer un Luc comme quelqu'un d'une génération plus âgée qui nous dit « Mais en ce temps-là, on filait droit, on était intègre, qui voit les générations passées comme idéales. » Mais c'est pas la romance et la droiture en permanence dans cette église qui naît. Il y a des choses pas belles à voir. Quels sont les parallèles que Luc met en évidence entre Barnabas d'un côté et Ananias et Saphira ? Ben, ils ont chacun vendu un bien et ils ont amené une somme aux pieds des apôtres. Et cette somme est utilisée pour le bien des pauvres. Similitude importante quand même. Mais qu'est-ce qu'ils font de mal ? Qu'est-ce qu'ils font de mal ? Est-ce que, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un peu forcé quand même cette solidarité ? On s'attend à ce que, allez, il faut donner plus que ça quand même. Est-ce que c'est ça qui est problématique pour Ananias et Saphira ? Non, de nouveau, on l'entend dans les questions de Pierre, ils étaient libres d'utiliser leurs biens comme ils le souhaitaient, et même de donner qu'une partie. Ce qui est problématique ici, c'est qu'ils veulent se faire passer pour des personnes extrêmement généreuses. Ils veulent avoir la réputation de personnes extrêmement généreuses, tout en ne payant pas le prix pour cette générosité, en gardant une partie du bien. Ils veulent avoir la réputation, l'apparence de personnes très généreuses dans l'Église, mais sans payer le prix complet. Une autre chose que Pierre met en évidence, c'est qu'il pense pouvoir mentir à Dieu. Ça ressort à la fois pour Ananias et Saphira. Il pense pouvoir faire ce qu'ils font sans la moindre référence à Dieu. Il ne saura pas, il ne verra pas. Tout ça lui reste, c'est caché pour lui. Pierre le dit clairement, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On en revient à notre introduction. On s'est demandé comment est-ce qu'un non-croyant réagirait à ces nouvelles. On s'est demandé comment un croyant réagirait à ces nouvelles. Mais comment est-ce que Dieu réagit à ces nouvelles ? Comment est-ce que Dieu réagit à l'hypocrisie de ceux qui se présentent comme chrétiens ? Est-ce qu'il est indifférent ? Est-ce qu'il n'en a pas grand-chose à faire ? Je suis quand même encouragé, il y a des bonnes choses, on va pas mettre le doigt sur les choses qui fâchent, c'est quand même pas mal, c'est pas mal du tout. Le récit qu'on a devant nous montre que Dieu ne prend pas à la légère l'hypocrisie. On peut même dire qu'il l'a en horreur, il la hait. Il hait l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est... Et de là vient le terme, c'est jouer au théâtre avec un masque. Avec le masque, on se présente comme quelqu'un, mais en réalité, on est quelqu'un d'autre. Et ce qu'on voit ici avec force, et même avec un certain choc, c'est que Dieu hait l'hypocrisie. Il la hait. On ne peut pas jouer avec Dieu. C'est le parti qu'ils avaient pris, personne ne verra, personne ne saura. Et Pierre met l'accent sur leur hypocrisie. Il voulait donc le prestige du sacrifice généreux devant tous, pas pour vraiment prendre soin des pauvres. Ce qu'ils veulent, c'est satisfaire leur ego, flatter leur ego. Et ce n'est pas simplement une erreur de dernière minute, ils ont menti, ils en ont discuté, ils ont menti au Saint-Esprit, à Dieu lui-même. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça signifie que les chrétiens sont des gens qui n'ont rien à se reprocher ? Les chrétiens sont des personnes qui ne sont jamais hypocrites, incapables de chuter. C'est ça les vrais chrétiens ? Mais Pierre, il est bien placé pour savoir, lui-même qui a renié trois fois Jésus en prétendant qu'il ne le connaissait pas, bien placé pour savoir qu'un chrétien n'est pas quelqu'un de parfait, qui n'a rien à se reprocher. Et de même, il n'y a aucun chrétien ce soir qui est là et qui peut dire qu'il n'a jamais fait preuve d'hypocrisie. Déjà ça, ce serait de l'hypocrisie. On a tous déjà chanté, et on en a chanté tout à l'heure, des chants qui nous engagent, et où on pourrait dire des paroles sans vraiment les croire, sans vraiment les penser, et pire encore, sans vraiment les appliquer. On a tous déjà prié, non pas avec la conscience qu'on avait affaire à un Dieu saint, mais pour l'approbation des autres. On a tous déjà donné, non pas avec un amour pour ceux à qui on donne, mais simplement pour satisfaire son ego. On l'a tous fait. Ce qui caractérise les chrétiens, c'est cette conscience précisément de faire le mal. C'est de le réaliser après coup, de le regretter. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui se passe ici ? Eh bien, on voit effectivement un homme être foudroyé comme mort. Et ça peut être tellement soudain qu'on s'interroge sur « Waouh ! Est-ce que c'est comme ça que ça se passera à chaque fois ?» De toute évidence, et on est là pour le démontrer, tous les hypocrites ne sont pas foudroyés sur place. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Ananias et Saphira et qui est mentionné ici ? Alors, plusieurs exégètes mentionnent le fait qu'il y a comme un parallèle entre ce qui se passe ici pour Ananias et Saphira et ce qui s'est passé au début de la nation d'Israël pour Achan et sa famille. Là encore, il est question de bien, d'une mort qui les attend, eux aussi. Mais le point commun, c'est qu'il s'agit justement des débuts de l'Église, des débuts de la nation, comme s'il fallait dès le départ être conscient, marquer les esprits par la réalité du Dieu à qui nous avons affaire, de précisément ne pas le prendre à la légère. Une crainte s'empare de tous ceux qui en avaient entendu parler. Crainte dans le sens d'une profonde révérence. On ne va pas pouvoir prendre Dieu à la légère. Je dois réaliser à qui j'ai affaire. Et alors qu'on termine la méditation de ce passage, c'est l'occasion de relever deux aspects qui sont mentionnés, un dans le premier, l'autre dans le deuxième. Il n'y a pas de surprise, un dans le premier, deux dans le deuxième. Ah bon. Il y a une grande grâce dans le premier, au verset 33. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et là, la grâce, on en a parlé dans la première partie de notre rencontre, un cadeau immérité. Autrement dit, c'est quelque chose qui nous a été donné. Le fait d'être pardonné, le fait d'être en paix avec Dieu, réconcilié avec lui, le fait même de pouvoir donner ses biens, d'être généreux, d'avoir une solidarité authentique, c'est une grâce, quelque chose qu'on n'a pas mérité, que Dieu nous fait, dont Dieu nous fait la grâce. Mais dans la deuxième partie, on trouve le commentaire suivant, c'est une grande crainte qui s'empare de tout ce qu'il apprirent. Une grande crainte. Les deux sont présentés, les deux sont vrais, une grande grâce, mais une grande crainte aussi. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on ne va pas pouvoir confondre la bienveillance de Dieu avec de l'indifférence. On ne va pas pouvoir confondre la bienveillance de Dieu avec de l'indifférence. comme si on se disait « Dieu m'aime, Dieu m'accepte tel que je suis, Dieu il ne dit rien sur ma situation, il ne dira rien sur ma situation. Si c'est vrai qu'il nous accepte tel qu'on est, il a des choses à nous dire, il a des choses qu'il veut changer, il veut que l'on reconnaisse notre péché précisément. » Et ça ne va pas suffire de se dire « c'est son rôle de pardonner, c'est son rôle de pardonner. » Oui, Dieu fait grâce à des pécheurs comme nous. Il est désireux de pardonner, mais il n'est pas indifférent, certainement pas, à nos hypocrisies, à nos dissimulations. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de ta grâce, justement. D'une part, pour que ce message de la résurrection de Jésus nous habite au point de changer notre perspective sur notre vie, notre manière de voir nos biens, notre avenir, notre manière d'investir, de sacrifier. Donne-nous, Seigneur, la grâce de vivre pour Jésus, une solidarité authentique. Et donne-nous aussi, Seigneur, la grâce d'être remplis de cette crainte, cette révérence face à un Dieu saint qui ne prend pas l'hypocrisie à la légère, qui la condamne avec force. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher dans la lumière comme des enfants de lumière. Donne-nous, Seigneur, de ne pas rechercher l'approbation des autres, à satisfaire notre ego, mais précisément à marcher dans la lumière pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.